Bonjour. Opa. Je dois changer mes lunettes, sinon je ne peux pas lire. Et je pense que je vais prendre les micros parce que je n'aime pas parler comme ça, en fait. Opa. Avez-vous déjà vécu cette expérience de vous trouver face à quelqu'un qui vous demande soit du temps, de l'argent, d'aller parler à quelqu'un d'autre en son nom, ou qui vous demande votre accord, et vous voulez dire non, mais vous ne pouvez pas dire non, ou vous ne savez pas les faire. Et alors vous finissez pour donner votre temps, votre argent, votre accord, et vous vous mêlez des affaires des autres sans vraiment avoir voulu. Aujourd'hui, on va méditer sur un épisode de la Bible où les personnes ne savent pas dire non, vraiment dire non, et comment cette situation va générer beaucoup de soucis. Et nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui des erreurs des autres dans le passé. On va lire un passage de l'histoire des Samson. J'espère que j'ai bien prononcé, parce que Fanchon m'a fait voir que voilà, ma prononciation est toujours terrible. Samson, les dernières des juges. On est donc dans les livres des juges, vous savez, après Josué, avant Samuel. Et qui sont les juges? Ils sont ces hommes et femmes, comme Samson, Gédéon, Déborah, pour citer les plus connus, que Dieu appelle pour libérer son peuple du joug des Philistins. Ça arrive juste après la mort de Josué et avant l'instauration de la monarchie. On se retrouve en terre d'Israël, le peuple a déjà traversé les déserts, ils sont en train de conquérir encore tout doucement la terre de la promesse, et c'est les 11e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va lire les débuts du chapitre 14 des Juges, où le jeune Samson annonce à ses parents qu'il veut épouser une femme philistine. Cette prédication s'intitule Sinon, je fais roulement des tambours. Ah oui, je vois, ça se met en route. Hop, pas. Toujours pas. Désolée. Non. Excusez-moi, à la régie, j'arrive pas à faire marcher la zapette. Je t'entends pas clair. Ah, ok. Bon. Alors, roulement de tambour. Hop, merci. Cette prédication s'intitule « Aime Dieu pour bien aimer les autres ». Et on va commencer par lire les chapitres 14 du Juge, du verset 1 au 10. Il est là, donc, merci. C'est la version de Louis Segonde. Et du coup, je vais me tourner pour pouvoir lire parce que je n'ai pas les textes avec moi. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. On continue, voilà. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Il prit entre ses mains les miels dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Jusqu'ici, la lecture de la Bible, je vais prier. Merci, notre Père, de nous accorder ce temps pour méditer ensemble autour de ta parole, Seigneur. Je te demande, comme Fanchon a fait, d'ouvrir nos oreilles pour que chacun puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin. J'ai aucune idée. Et que tu ouvres ma bouche, Seigneur, pour que ma bouche soit ta bouche. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai choisi, voilà, une image pour illustrer la prédication qui n'est pas très courante. Parce que quand on imagine Samson, on les voit comme un Héraclès ou Hulk, c'est-à-dire un héros Marvel, bien sûr. Quelqu'un de très, très, très fort. En train, par exemple, de détruire avec sa seule force les temples que les Philistins avaient construits à Gaza pour leur dieu Dagon. Et avec les temples, c'est la dernière scène dans la vie de Samson, c'est lui et beaucoup d'autres qui vont mourir sous les décombres. La Bible raconte que Samson va tuer plus de personnes les jours de sa mort en faisant s'écrouler les temples païens sur lui-même que pendant toute sa vie et il en va tuer des personnes en vie. Hein. Ou bien on imagine l'autre côté fascinant de sa personnalité, c'est-à-dire l'homme séduisant avec cette tresse. À l'air de rien, il devait passer un bon moment les matins pour se coiffer. L'homme séduisant et à la fois l'homme séduit par la femme qui attire ses yeux. Bon, mieux dit par les femmes en pluriel, parce qu'elles sont plusieurs à avoir envoûté Samson. Cette histoire qu'on a lue, ce n'est pas l'histoire de Dalila. C'est la première femme, celle qui essaye de se marier avec. Après, il y a une prostituée et Dalila, c'est la dernière. L'histoire de la peinture en Europe nous offre plein de scènes où on voit ces bel homme allongé et complètement amadoué par Dalila, la dernière de ses conquêtes. Cette femme philistine qui va les trahir, qui va faire couper ses tresses et provoquer donc sa perdition. Parce que si vous ne connaissez pas trop son histoire, la force, on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est trouvé dans ses cheveux. Et du coup, l'histoire des Samson, quand on la regarde comme ça aussi dans son ensemble, c'est une histoire tellement contemporaine, dites-moi, violence, mort, sexe, mensonge, érotisme. Je me dis que Tarantino pourrait réaliser un bon film avec tous ces matériels. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que toute cette violence et mort et sexe et érotisme qu'on associe à Samson, tout cela commence dans le contexte d'une famille pieuse, les parents de Samson. Un couple d'Israélites qui sont des personnes qui veulent que obéir à l'Éternel. Aujourd'hui, je vais parler des Samson, mais pas du héros hyper fort, non pas du juge choisi pour libérer Israël. Je ne vais pas non plus parler du séducteur à cette tresse. Je vais parler des Samson, les fils. Des Samson, l'enfant peut-être gâté, des Samson, l'enfant peut-être roi. Et quel rôle ont joué les parents dans tout cela? Et ça, c'est la raison de cette image pas courante pour illustrer une exposée sur Samson. Ici, c'est Samson en train d'offrir un rayon de miel à ses parents. En fait, c'est ce qu'on vient de lire. Et c'est une scène ténébreuse, pas très, très éclairée, parce que c'est un épisode ténébreux. On verra plus tard pourquoi. C'est un tableau d'un peintre de la Renaissance italienne, Guercino, et vous pouvez l'admirer à la Galerie Borghese à Rome. Avant de creuser dans les chapitres 14 qu'on vient de lire, il faut raconter quelque chose du jeune Samson, sa vie avant d'arriver à ce moment où il veut se marier et se marier avec une fille philistine. Et pour cela, je vais m'aider de notre tableau. Et voilà, celui-là, c'est un Tintoretto et peut être admiré à la Fondation Thyssen-Bornemisza à Madrid. Il s'appelle l'Annonciation à la femme des manoirs. Et c'est qui la femme des manoirs? Bon, c'est la maman de Samson. Dans la Bible, elle n'a pas de prénom, seulement le père manoir a un prénom. Du coup, l'histoire de Samson commence avant sa naissance. Sa maman était stérile. Un jour, elle reçoit la visite d'un ange et qui, celui-là, lui annonce la naissance miraculeuse d'un enfant. On est donc dans une scène type de la Bible. On arrive ici et on pense à Isaac, on pense à Jean-Baptiste, on pense à Jésus. Cet enfant est choisi par Dieu qui va faire possible l'impossible. Il sera consacré dès le ventre de sa mère. L'ange donne à la mère des instructions pour elle et pour l'enfant. Elle ne doit pas boire du vin ni manger des choses impures, ce qui est pas mal pour une femme enceinte déjà. Et pareil pour l'enfant, pas de vin, pas des choses impures et interdiction de se couper les cheveux. Samson est en fait un nazir dont la Bible, on retrouve cette figure, c'est une personne consacrée à Dieu par un vœu. Normalement, c'était temporaire. Dans les cas de Samson, c'est pour toute sa vie. Et si vous voulez plus de détails sur les statuts du nazir, je vous invite à les lire dans les livres de Nombres, les chapitres 6. En tout cas, il faut savoir que les nazirs, comme hommes consacrés à Dieu, ne pouvaient pas non plus s'approcher d'un cadavre, parce que ça le rendait impur. Les chapitres 13, qui précèdent celui qu'on a lu, finit en disant « La femme enfanta un fils » et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Du coup, là, on va revenir doucement à notre chapitre, les 14. Je ne sais pas si vous avez retenu ce qu'on a lu avant, ce que je viens de raconter maintenant, mais Samson ne va pas respecter les normes que je viens d'énoncer. En fait, il est un homme consacré à Dieu dès sa conception, et nazir, mais seulement de l'extérieur, des façades. À l'intérieur, c'est autrement. Son corps parle de Dieu grâce à la circoncision et aux cheveux jamais rasés, mais son cœur n'est pas du tout circoncis. Alors dans ce seul chapitre qu'on a lu, il va toucher un cadavre, celui du lion. Il va manger des choses pas pures, les miels dans les cadavres du lion. Et il va en donner à ses parents des choses impures à manger. C'est pour cela que je disais avant que c'est une scène ténébreuse. Et pour couronner les tout, il va boire du vin. Ça ne se voit pas clairement, mais dans les derniers versets, j'ai lu que Samson fait un festin. Le mot festin, en hébreu, vient de la racine de boisson alcoolique. En fait, on ne peut pas concevoir un festin en Israël sans levain qui est là. Alors, Samson n'est pas un bon nazir, on vient de le voir. Et je vous annonce, vous pourrez le voir si vous avez le temps et l'envie, qu'il n'est pas non plus un bon juge. On peut même dire qu'il est le pire de tous. C'est les dernières, il en a 10. Parce qu'il va agir toujours par intérêt personnel et soif de vengeance. Pas vraiment pour délivrer le peuple du joug des Philistins. Samson, c'est pour ainsi dire le bouquet final d'un spectacle assez pathétique, qui va de mal en pire au fur et à mesure qu'on avance dans les livres des juges. Parce que les livres des juges, c'est comme les livres de l'Exode à l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça veut dire cela. Au début du livre de l'Exode, on retrouve les Israélites qui sont esclaves en Égypte. Et au fur et à mesure que le livre avance, ils récupèrent de plus en plus la liberté, liberté physique. Et en fait, à la fin du livre, ils sont en train de construire les tabernacles, non ? De l'esclavage pour les pharaons à la liberté pour être au service de l'Éternel. Par contre, les livres des juges, c'est à l'inverse. Ils se retrouvent déjà en liberté sur la terre d'Israël. Mais peu à peu, ils vont perdre cette liberté et ce service à l'Éternel. Ils vont laisser l'idolâtrie rentrer chez eux, ils vont finir par être esclaves sous les Philistins. En fait, on a lu dans les textes qu'à cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors, récapitulons. Samson n'est pas un bon nazir. Samson n'est pas un bon juge. Oh là là. Et plus triste que tout cela, Samson n'est pas un bon fils. On le voit dans ces chapitres. Il va finir mal. Il va entraîner sa famille qui n'était pour rien dans les désastres. Et là, oui, on va observer de près les textes du chapitre 14 pour analyser cela. Du coup, les premiers versets, on a lu « Samson descendit à Timna ». La descente, souvent dans la Bible, c'est une descente physique, mais aussi spirituel. En fait, quand on dit qu'on va à Jérusalem, on ne dit pas qu'on va à Jérusalem, on dit qu'on monte à Jérusalem. Et c'est qu'il y a une vraie montée, c'est-à-dire les Juifs devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par an pour les fêtes des pèlerinages. Et quand ils s'approchaient, quand ils arrivaient déjà en bas du temple, il fallait monter des marches que les archéologues, ils ont récupéré les marches de l'époque de Jésus, du second temple, pour arriver jusqu'au temple. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait dans les temples ? Les temples, ce n'est pas comme pour nous un rassemblement des croyants, c'est là où Dieu habite. Du coup, se rapprocher ou monter à Jérusalem, vous le dites, monter aussi spirituellement, s'approcher de Dieu. Descendre, ça veut dire descendre aussi spirituellement et s'éloigner alors de Dieu. Du coup, ça ne commence pas très bien cette histoire. Et tout de suite, on voit qu'il voit une fille philistine et il la veut. Bon, il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, que les mariages avec les Philistins, comment dire, étaient assez interdits. Et d'autant plus qu'il est un nazir, un consacré pour Dieu. On n'est qu'au verset 2 et on sait déjà que tout va mal finir. On dirait qu'on est à nouveau à la Genèse chapitre 3, au récit de la chute. Ève aussi a vu un fruit, elle l'a voulu. Samson voit, pour ainsi dire, un fruit interdit, une femme philistine, et il la veut. Il demande à ses parents de la lui prendre pour femme. Bon, il ne demande pas vraiment. Il ordonne à ses parents de la prendre pour lui, dans les versets 2. Il faut savoir aussi que les mariages, à l'époque, c'était l'initiative du père du fiancé. Toujours et encore aujourd'hui, dans les familles ultra-orthodoxes juives, ce n'est pas les garçons ou la fille qui va choisir avec qui se marier. Imaginez-vous, on est en Israël, 11e siècle, avant Jésus-Christ. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, je fais une parenthèse par dire, je ne suis pas, avec cette prédication, en train de dire, parents chrétiens, vous pouvez décider avec qui se marie votre enfant. Ce n'est pas ça. C'est une illustration, les mariages, pour parler d'un concept dont je vais parler tout de suite, que c'est les limites. Et on est dans les contextes d'Israël 11e siècle. Aujourd'hui, nous, on fait ce qu'on peut avec nos enfants et quand ils sont adultes, ils prennent leurs décisions, il faut les respecter. Je reviens. Dans la Genèse, Adam reçoit les fruits d'Ève sans faire opposition. Mais les parents, ici, en revanche, ne sont pas d'accord pour prendre ces fruits interdits parce qu'ils veulent suivre les commandements de Dieu. Mais Samson insiste à nouveau avec une ordre maintenant adressée au père. « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Et il oublie les mots magiques, « s'il te plaît. » Et du coup, dans les versets 5, on lit « Samson descendit à Timna, comme au début, mais cette fois avec son père et sa mère. » Et voilà. Et pour finir de clouer les clous, enfoncer les clous dans les versets 10, c'est dit aussi que les pères descendent pas seulement à Timna, mais dans la maison chez la fille philistine. C'est-à-dire, Samson va entraîner ses parents dans sa descente physique et spirituelle. Les parents ont voulu dire non. Ils pensent que c'est une très mauvaise idée. Et quand même, parfois, nous, on pense que parce qu'on a verbalisé non à nos enfants, c'est bon. On a dit non. Mais il faut aussi agir en non. Ici, les parents descendent avec lui, c'est-à-dire donnent leur accord au mariage, malgré ne pas être d'accord. Et c'est cela dont j'ai parlé au début. Des personnes qui ne veulent pas dire oui, qui arrivent peut-être à verbaliser un non, mais qui finissent par dire oui, pas avec la bouche, mais avec les pieds, dans ces cas. Ces personnes ont des problèmes, des limites. Et on va en parler ce matin. Jésus dit « Que ton oui soit oui et que ton non soit non ». Bah bon, bref, hein, ça a l'air simple ça, non ? On dirait une boutade. « Que ton oui soit oui et que ton non soit non ». Mais les personnes, comme les parents de Samson, avec des limites mal placées, vont avoir des problèmes à accorder leurs mots avec leurs actions. On dit oui et on finit par faire non. On dit non et on finit par faire oui. Les problèmes, c'est que quand on ne sait pas dire non, et rester ferme sur le non. On ne peut pas dire non à notre fils Samson, mais ce qu'on ne peut pas dire non non plus au mal. Et là, ça commence à être un vrai problème. Parce que Dieu nous demande, tout au long de la révélation, de choisir. Regarde, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Mais si finalement on ne sait pas choisir, si finalement on ne peut pas choisir, alors ici, ce qui peut sembler dans cette histoire un conflit, voilà, un petit truc familial, relationnel, émotionnel, les parents doivent être tristes. Non, non, devient un vrai problème spirituel. Quand je lis les versets 5, je ne peux pas éviter de me souvenir de ces versets que Jésus dit dans l'Évangile et qui est hors de contexte, nous fait souvent mal. Matthieu 10, 37. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et c'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et en lisant ces textes comme ça, sans illustration, on s'est dit, mais bon sang, il faut que j'haïsse ma famille. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que si l'amour pour notre fils, c'est les cas qu'on voit ici, est en conflit avec notre amour pour Dieu, c'est ce dernier qui doit l'emporter. Aimer Dieu, dans l'abstrait, notre Dieu, peut sembler facile, entraînant, enthousiasmant. Et il est comme ça, parce que Dieu est amour. Wow. Mais si les prix à payer, c'est de plaire ce qu'on aime à la folie, décevoir ceux qui sont proches et même contrarier ceux qui nous sont tellement chers comme les enfants. Oh, écoute, laisse-lui être heureux. On a peur parfois des conséquences négatives. Et si aimer Dieu veut dire perdre l'amour de nos proches, la relation avec notre enfant? Et là, je fais une petite parenthèse pour donner un petit témoignage. Une fois, je me suis retrouvée dans ces versets. Je ne sais pas si ça vous arrive de lire la Bible et de dire « Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est... Voilà, j'ai vécu ça. » J'avais 30 ans. Ça faisait à peu près un an que je fréquentais l'église évangélique à Barcelone, qui était mon église. Et j'ai décidé, c'est pas que j'ai décidé, c'est que j'avais une envie folle de me faire baptiser. J'avais tellement envie de me faire baptiser. Et j'ai annoncé à ma famille, je veux me faire baptiser. Et aux surprises, ma mère m'a dit, si tu t'es fait baptiser, je vais aller voir un juge pour qu'il te déclare folle. Et moi, comment dire, ma mère, c'est la personne qui m'aimait plus dans la vie. Et c'était une bonne femme qui m'aimait beaucoup. J'ai appris que derrière elle, il y avait une de mes sœurs qui complotait apparemment depuis des mois contre moi. Franchement, à ce moment-là, maintenant, 25 ans après, ça peut sembler même comment dire, ridicule. J'avais 30 ans en plus. Hein, mais j'ai senti, je vous promets, la terre trembler sous mes pieds. Non mais c'est quoi ça? Deux des personnes qui m'aiment les plus dans le monde, ces deux des personnes que j'aime les plus dans le monde, qui me disent ça. L'Esprit Saint, il est incroyable. Parce que moi, je suis lente à réfléchir, en fait. Mais tout de suite, ces versets sont venus à ma tête et j'ai compris. J'ai compris que je devais faire un choix. Que je devais faire un choix avec la peur de qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que je vais voir un juge? Est-ce que ma famille va me répudier? Bon, mais pour tout dire, le monde autour de moi s'ébranlait, les terres sous mes pieds bougeaient. Mais waouh, j'avais rencontré cet homme, Jésus, et son amour. Et il était en train de reconstruire les vases de Stamford, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Portland, pardon. J'étais les vases de Portland, il était en train de les reconstruire. Comme quoi, les choix étaient vite faits. Et j'ai dit, tu sais quoi, moi je me fais baptiser avec ou sans vous. Je suis étonnée moi-même de mon courage, mais c'est l'Esprit Saint vraiment qui m'a guidée. Pour la petite histoire, je ne suis jamais allée voir un juge. Ma mère a continué à m'aimer, beaucoup plus je dirais, et surtout à me respecter beaucoup plus. Ma sœur, celle qui avait complété, est venue le lendemain du baptême en pleurs, en me demandant pardon. Et voilà. Et ce que je peux dire, c'est que j'avais plein de peur. Mais aujourd'hui, 25 ans après, je peux dire qu'une de mes sœurs, une autre, va dans l'église évangélique. Et j'ai une nièce qui s'est fait baptiser dans le même baptistère où je me suis fait baptiser. C'est fou ça. Qui l'aurait cru? En tout cas, moi, je ne l'avais pas pensé à ce moment-là, quand j'ai dû prendre la décision. J'ai pensé plein de choses ténébreuses. Tout ça pour illustrer que les choix doivent être faits sur l'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui ? Je ne peux pas, comme parent en Israël, 11e siècle, avant Jésus-Christ, accorder un mariage avec une femme philistine. Non, ça, ce n'est pas aimer mon fils. Et surtout, ce n'est pas aimer Dieu. On a peur de le demain. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, le demain, c'est au Seigneur. Il est dans ses mains. Et c'est ça, lui faire confiance. Le problème, c'est qu'on pense que c'est un dilemme. Soit j'aime mon fils, soit j'aime Dieu. Soit je lui fais plaisir à mon fils, soit je respecte les commandements. Et devant les dilemmes, souvent, moi, comme maman, je vous le dis, on choisit l'enfant. Mais la vérité, c'est qu'ici, les pères et la mère de Samson aiment plus son fils que Dieu. Ils vont aller contre leurs principes et leurs convictions pour laisser Samson imposer sa volonté. Mais c'est un faux dilemme. Si Jésus nous avertit là-dessus, c'est pour nous dire que si on aime bien Dieu, on va bien aimer aussi les autres. C'est dans cet ordre. D'abord, premier commandement, aimer Dieu. Et d'ici, ça va découler pour aimer bien les autres. On ne peut pas mettre les autres à la place de Dieu. Il n'y a pas un vrai choix à faire. La seule manière de bien aimer les autres, c'est en gardant bien les priorités dans nos vies et en laissant Dieu prendre la première place. On ne peut pas faire des compromis avec la parole de Dieu. Du coup, les meilleurs parents, et ça, je me le prêche à moi-même, ne sont pas ceux qui satisfont les sollicitudes de leurs enfants. Je ne parle pas des petits-enfants, je parle aussi des grands-enfants. Mais ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, quoi qu'il arrive, les deux mains sont dans ses mains. Et voilà avec cette histoire des Samson, un cas classique des limites mal placées. On voit l'enfant qui prend la place des parents, choisit avec qui il va se marier, j'insiste, on est 11e siècle avant Jésus-Christ, et il va donner les ordres, d'accord ? Et les parents, à leur tour, prennent la place de l'enfant. Ils opposent un peu l'ordre des Samson, comme un enfant, quand on lui dit « range ta chambre », et l'enfant dit « mais pourquoi c'est moi qui dois ranger la chambre ?» Parce que c'est toi qui l'as dérangé, et parce que c'est ta chambre, et du coup, tu te responsabilises de tes affaires, non ? Et si tout se passe bien, finalement, l'enfant va suivre les ordres des parents. Mais si on voit l'histoire à l'envers, Samson ordonne, les parents opposent un peu des résistances, mais finalement, voilà, on suit ses consignes. Ce n'est pas qu'ils obéissent, c'est qu'ils obtempèrent. Et c'est le monde à l'envers. Et c'est pour cela que je parlais tout au début de Samson comme l'enfant gâté, comme l'enfant roi. Maintenant, je vais sortir un moment du zoom qu'on a fait dans l'histoire des Samson pour faire un grand angulaire et observer la parole de Dieu, parce qu'on va s'attarder un peu sur la notion des limites au point de vue biblique. Pourquoi je parle des limites ? La création de Dieu est un monde ordonné. Et Dieu vient mettre de l'ordre dans les cas originaires et établit des limites saines. Chaque chose dans la création a sa place et son temps. Et tout est bâti sur la différenciation. La nuit n'est pas les jours. La lune n'est pas le soleil. Les cieux ne sont pas la terre. L'homme n'est pas la femme. Et les parents ne sont pas les enfants. Chacun a ses responsabilités et ses commandements auprès de Dieu. Les parents, par exemple, doivent apprendre les commandements aux enfants dès qu'ils sont nés. Ils doivent leur apprendre à respecter les limites que Dieu a placées. Et s'ils les dépassent, ils doivent les discipliner. Les enfants, de leur côté, sont appelés à honorer les parents. À l'air de rien, c'est un des 10 commandements. Et du coup, si on ne respecte pas les limites, si on n'assume pas les rôles et la responsabilité qui nous correspondent, on avance, pour ainsi dire, à l'envers. On défait la création de Dieu de plein pied dans les chaos primitifs, les tohu-bohu, si vous voulez, de Genèse 1, et c'est une pagaille annoncée. Et c'est pour cela que l'ennemi a tellement d'intérêt à effacer les limites que Dieu a clairement établies dans sa parole. Laurent parlait dans sa prédication quelques semaines auparavant de la tendance de l'ésotérisme de confondre la créature, l'homme, femme, nature, avec les créateurs dans une seule réalité, tout confondu, hein, un seul bouillon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme auparavant, il y a une confusion, pareille parfois, voulue par l'ennemi, entre qui sont les parents et qui sont les enfants. Et là, je reviens sur l'histoire des Samson pour continuer à parler des limites. La Bible nous apprend dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Les personnes avec des mauvaises limites n'arrivent pas à faire la différence. on les voit chez Samson, qui, malgré toute sa force et son sept sapiles, est incapable de maîtriser sa langue. Samson parle quand il devrait se taire, près de Dalila, sa maîtresse, à qui va dévoiler son secret et du coup provoquer sa perdition. Et en revanche, il s'était quand il devrait parler. C'est ce qu'on voit dans notre chapitre 14 par rapport à ses parents et en deux occasions. Je remets les textes, juge 14, des 6 à 10. Pourquoi il s'était? Parce qu'on peut imaginer que s'il raconte ce qui se passe, il va se faire gronder. Comme quand il a annoncé son désir de se marier avec une femme philistine. Il sait qu'on ne touche pas des cadavres, qu'on ne mange pas des choses impures. Il mène une vie de duplicité. Il pense que parce qu'il cache la réalité, c'est comme si rien se passe. Mais le problème pour ces personnes, c'est que Dieu voit tout. Les lions et les abeilles dans cette histoire peuvent sembler à nos yeux des éléments folkloriques qui rajoutent de la couleur au récit. Ah, regarde, c'est sympa. En fait, ils sont des avertissements de la part de Dieu. L'image du lion rugissant exprime, dans la Bible souvent, la colère de Yahvé envers son peuple infidèle. Et les abeilles apparaissent 4 fois dans la Bible, une fois ici, et les autres 3 fois sont des ennemis d'Israël. Du coup, on peut conclure que Samson n'écoute pas ses parents et il ne veut pas écouter non plus aux avertissements de Dieu qu'il cache à sa famille. On dirait qu'il se croit, invincible. Il pense qu'il peut dépasser toutes les limites sans devoir subir les conséquences négatives. Mais là, hélas, c'est une des lois spirituelles que la Bible nous apprend au tout début. La loi de la mesure par mesure. Pour continuer avec l'image, les parallélismes avec la Genèse et Ève et Adam. Ève et Adam dépassent les limites parce que qu'est-ce que c'est la chute? Qu'est-ce que c'est les péchés? Mais dépasser une limite. Et hop, expulsion de l'Éden. Action négative, conséquence négative. J'aime bien, quand je parle de ça, de parler de Jacob, parce que je trouve que c'est... Vous savez, Jacob, qui sera Israël. Bon, bref, il décide qu'il va arnaquer son père. Son père Isaac, il est vieux et il est aveugle. Il faut les faire quand même. Il va se faire passer pour Esaü. Pourquoi? Pour recevoir la bénédiction. Et voilà, il arnaque son père. Il doit fuir. Pourquoi? Parce que Esaü veut le tuer. Jacob se retrouve chez son oncle Laban. Et qu'est-ce qui se passe chez son oncle Laban? L'arnaqueur va être arnaqué. Il va penser qu'il marie Rachel et l'oncle lui change Rachel la nuit des noces et il se retrouve épousé le lendemain à Léa, celle qu'il n'aimait pas et qu'il ne va jamais aimer en plus. Comme quoi, la Bible nous apprend qu'on ne peut pas dépasser les limites comme ça. C'est la responsabilité des parents d'apprendre aux enfants cette réalité. Toute action mauvaise aura des conséquences mauvaises. Parfois, nous les parents, je me mets dans les lots, on pense qu'on aide nos enfants en les évitant les conséquences négatives de leurs choix négatifs. Attends, non, t'as dépensé tout l'argent que t'avais pour ce mois, à nouveau, 4e mois consécutif. Bon, bien, tiens, je t'envoie tout ce dont tu as besoin. Et du coup, on résout un problème, parce que c'est vrai que c'est un problème à court terme, mais on est en train de générer un problème à long terme. Nos enfants, au lieu de devenir des adultes indépendants, deviennent des adultes codépendants, ce qui n'est pas les plans de Dieu pour eux. Mais il faut les faire subir dès que possible, de la petite enfance, les conséquences négatives de leurs choix pour qu'ils apprennent à faire les bons choix par eux-mêmes. Non, le problème ici, c'est que Samson, il est déjà un jeune adulte qui apparemment, peut-être les parents n'ont pas su, ils ont essayé. C'est-à-dire, il faut aussi... Je ne porte pas un jugement sur les parents de Samson. Nous, les parents, on fait tout ce qu'on peut. Après, les personnes deviennent des adultes et prennent leurs décisions. On ne sait pas quel est le cas. En tout cas, lui, il agit comme quelqu'un qui n'a pas compris que même si on cache tout, même si on ne dit pas ça, écoute, c'est mauvaise action, conséquences négatives. Et en fait, les parents, à la fin, ils ne peuvent pas être là tout le temps à résoudre, à sortir d'affaire la personne. Il faut les faire subir, je disais, les conséquences négatives de leur choix pour qu'ils apprennent après, quand ils vont sortir de la maison, à faire tout seuls les bons choix. S'ils pensent comme Samson qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec leur choix parce que personne n'est au courant et personne ne voit rien, et que cela n'entraînera pas des conséquences parce que, voilà, finalement, il y a quelqu'un qui va les sortir d'affaire. Aussi, eux, comme Samson, vont finir par prendre une mauvaise route. Je m'approche de la conclusion. Les livres des juges, l'histoire des Samson avec tout cet enchaînement des désastres, en fait, nous signale Jésus. Nous prépare pour Jésus, nous donne envie de Jésus. Et pour la conclusion, j'ai choisi une dernière image, plus classique. Ici, c'est Samson qui détruit les temples des Philistins, les tout derniers exploits. C'est une peinture du 18e École de Bologne et ça appartient à une collection privée. Au tout début, j'ai commencé par dire que Samson voulait se marier avec une fille philistine. C'est le début. Mais je ne vous ai pas raconté que, en fait, à la fin du chapitre, la fille finira donner un mariage à son garçon d'honneur. Et peu après, elle sera assassinée, brûlée vive. La maman de Samson, cette femme, son prénom et son visage, va vivre un vrai enfer en terre. Les fils qui devaient sauver Israël et fait esclave chez les Philistins, les fils qui devaient lui enlever la honte de la stérilité, va rajouter une couche avec la honte de la mauvaise réputation. Samson ne veut pas dire fort et puissant, comme la tradition nous a voulu faire croire pendant des siècles et des siècles, presque des millénaires. Et d'ailleurs, comme les valises Samsonite proclament encore aujourd'hui, je ne sais pas si je prononce bien en français, Samsonite ou Samsonite, en fait, en lisant des commentaires bibliques, on apprend plein de choses extraordinaires, comme que Samsonite, ça vient des Samson. Le créateur a voulu porter cette image des valises fortes et résistantes. Bon, écoutez, c'est pas très vrai, parce que Samson, en fait, c'est le diminutif du mot Shemesh en hébreu, qui veut dire soleil. Samson, ça veut dire petit soleil. Et c'est les prénoms que la maman lui avait donné à la naissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai lu ces versets. C'est déjà pas courant que c'est la femme qui donne les noms à l'enfant. Et ces petits soleils que la maman avait accueillis avec tant d'amour et d'espoir, imaginez, une femme est stérile, elle avait perdu l'espoir. Voilà. Après tout, les soleils, c'est source de vie, c'est ce qui permet la vie dans les planètes. Source de chaleur, promesse de renouvellement. Le soleil fait pousser les plantes. Il nous fait sourire quand un rayon s'échappe au milieu d'une journée de grisaille. Et non, et ce n'est pas le cas ici. Les petits soleils deviennent pour sa mère et pour tout le monde un feu dévastateur, pour lui-même le premier. En fait, les grands ennemis de Samson, ce n'est pas les Philistins, c'est lui-même. C'est lui qui devait sauver les Israélites du joug des Philistins, ne peut même pas se sauver lui-même de sa folie, de la convoitise des yeux. Et la maman perd son fils, qui va passer d'esclave à martyr. Elle perd aussi son mari. La Bible nous explique qu'il est déjà mort à l'enterrement de son fils. Et finalement, elle perd aussi la promesse de vie qui était associée à cet enfant. Une belle fille, des petits-enfants, la vie qui reprend grâce au petit soleil. Mais à la fin, tout est mort et enterré sous les décombres. Waouh ! Et qu'est-ce qu'on fait avec ces panoramas désolants ? Les livres des juges, les deux chapitres qui vont après Samson, sont encore pires, c'est gore. Les livres des juges nous laissent un goût amer dans la bouche. Mais il nous apprend que, laissez-nous tout seuls, nous faisons quoi ? Nous reproduisons Genèse 3, pardon, la chute, une fois et une autre. Les livres nous apprennent que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, même si on est fort et beau et on a 7 tresses, même si on est rentré dans la terre promise, même si on a été choisi dès la gestation, même si on est pieux et religieux comme les parents des Samson. Non, non, parce que on va tous rater la cible. C'est la conclusion qu'on peut extraire de tout l'Ancien Testament. On va tous rater la cible. Et on a tous besoin de quelqu'un. Je reprends ce qu'il a dit, au début. On a besoin du Messie tant attendu. On a besoin d'un médiateur, pas d'un sauveur en minuscule, sinon du vrai sauveur. Jésus, Yeshua, son nom veut dire salut. Quelqu'un qui nous sauve de notre folie et de nos manquements, parce qu'ils vont arriver. On a tous besoin d'un juge, mais pas d'un juge minuscule, mais du vrai seul juge, Jésus.
Samson va tuer beaucoup de personnes dans sa mort, on le voit bien là. Mais c'est en fait un suicide vindicatif. La mort de Jésus, en revanche, ouvre la porte au salut, à la vie éternelle. Et pas que pour son peuple, c'est pas contrainte, Israël, mais pour le monde entier, sans exception. Waouh ! Quel amour, celui-là ! Jésus nous invite à l'aimer, et à l'aimer, lui, plus que ceux qui nous sont les plus chers. Il faut aimer Dieu plus qu'on aime les cadeaux de Dieu. Et je pense que ça, c'est une leçon très difficile à prendre. Et peut-être ça prend toute la vie. Parce qu'on aime tellement la vie que Dieu nous a donnée. Parce qu'on aime tellement les enfants que Dieu nous a donnés. Parce qu'on aime tellement la famille où nous sommes nés. Mais il faut aimer Dieu plus que les cadeaux de Dieu. Et surtout, pour pouvoir dire oui, un vrai oui, en mot et en action à Jésus, il faut être capable de dire non aux autres et au mal. Aimer Dieu et respecter ses limites, c'est la meilleure manière de bien aimer les autres, prendre la place qui nous correspond et pas empiétiner dans la place des autres. Les meilleurs cadeaux qu'on peut faire à ceux qu'on aime, si on les aime vraiment, c'est pas de les consentir tout ce qu'ils veulent, hein. Ce n'est pas de repousser la décision qu'on sait qu'on doit prendre, mais c'est de devenir des hommes et des femmes attachés à la parole de Dieu, sans perdre des conséquences, quoi qu'il arrive, plein d'espoir et de foi, en confiant que lui sait mieux et qu'il guide toutes choses. Et je vais finir par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous édifie, qui nous éclaire, qui nous guide. Ta parole est une lampe devant mes pas, dit ta parole. Et c'est tellement vrai. Seigneur, je te demande que ce qu'on a écouté aujourd'hui, ça puisse faire son chemin, déjà dans moi, dans toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Merci pour ta parole. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire une dernière chose avant de partir. Si vous avez... Pendant les prédications, vous pensez que vous êtes une personne avec des limites mal placées. Moi, j'étais une personne avec des limites mal placées. Surtout, je ne porte pas jugement sur personne. Je parle de ça parce que je comprends ça, parce que j'étais là. Vous pouvez demander la prière, vous pouvez demander l'aide. Il y a des personnes, après les cultes, ici avec des badges prière, intercession, avec qui vous pouvez aller voir en toute confidentialité et tranquillité. Voilà.